Notre espérance est en Dieu, que chacun, chacune d'entre nous reçoive de lui maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. C'est une joie d'être ainsi rassemblés pour s'ouvrir à sa présence, pour s'ouvrir à sa dynamique et le célébrer ensemble. Nous nous présentons devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteurs. Criez de joie pour notre Dieu, faites de la musique, frappez le tambourin, jouez de l'harpe et de la cithare mélodieuse, car j'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait tes épaules. Oui, ses mains ont déposé mon fardeau. Criez de joie pour Dieu, c'est notre force. Acclamez le Dieu de tendresse. Alors chantons ce psaume 80 dont je viens de vous lire le début. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Le psaume 81 dans le psautier français, les strophes 1, 2, 4 et 5. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à chacune, à chacun dans cette maison. Merci pour votre participation. C'est vrai que c'est une force d'être ainsi rassemblés pour célébrer Dieu, s'ouvrir à sa présence. Merci particulièrement à Abigail Bassac, que nous voyons ici souvent au culte et qui a demandé à faire sa profession de foi parmi nous ce matin. Alors bienvenue à ceux qui l'accompagnent et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément protestants, qui viennent dans cette maison pour accompagner quelqu'un, pour accompagner un conjoint, pour accompagner un ami ou simplement de passage. Merci pour votre ouverture d'esprit. Je vous propose d'entendre maintenant ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité, dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Alors bien entendu, devant cet idéal infini de l'amour, nous pouvons de bonne grâce nous reconnaître comme étant perfectibles. Et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide en suivant du cœur cette prière du IVe siècle. Viens Seigneur, cherche ton serviteur. Viens bon berger et cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, accueille celui que tu trouves, place-le sur tes épaules, celui que tu as accueilli, ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même. Porte-moi, toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, qui est le repos des fatigués, qui est vivifiant pour les mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, bon berger. Jésus-Christ a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et pour annoncer aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. En effet, que ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux, éclairer leur route. Et ceux qui se sentent captifs, ils peuvent voir leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu et avancer libres sur leur chemin. Aujourd'hui, oui, cette parole est accomplie pour ceux qui l'entendent. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Donc, si vous ne saviez pas qu'elle s'appelle Abigail, donc vous la voyez souvent, en fait, mais là, bon, sa place a été prise par le chœur que nous accueillons avec grande joie, bien entendu. Mais voyez, donc, vous reconnaissez son visage. Et oui, effectivement, c'est une joie de l'accueillir pour cette profession de foi. En effet, Abigail a demandé, en fait, un baptême d'adulte. Mais elle a choisi que le baptême soit séparé de la profession de foi, qu'elle ait un baptême qui soit fait finalement en privé, ce qui a été fait au mois de juin, avec quelques-uns des amis qui sont là, pasteur Brice Démier qui l'a aidé dans son cheminement, bien sûr, cher collègue James Woody, et puis d'autres amis proches qui étaient là. Et le baptême, donc, signe de cette grâce de Dieu, et puis maintenant, en public, une profession de foi, car oui, pour professer la foi, c'est quand même mieux en public devant tout le monde, sinon ce n'est pas une profession de foi, c'est-à-dire un témoignage public de la foi et l'entrée dans le peuple des disciples de Jésus-Christ. Donc, avec grande joie, nous vous accueillons pour ce temps de profession de foi devant nous, au milieu de nous, et c'est pour nous une grâce, une joie de bénéficier de ce temps. Je vous propose de vous méditez ce passage que j'ai préparé. Donc, normalement, c'est une méditation sur Jésus-Christ. Abigail m'a demandé d'ajouter un petit peu d'Esprit Saint dedans, ce que je fais de bonne grâce. Donc, je vous propose ces paroles d'abord de l'Évangile. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis et elles le connaissent et il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, chacun peut aller au Père. Et c'est en particulier pour vous, Abigail, que Jésus-Christ a soufflé et dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit promis par les prophètes, Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de confiance en l'Éternel, esprit qui va avec bonté vers les malheureux de la terre. Viens donc, Esprit Saint, sur notre amie, notre sœur, Abigail. Alors Abigail, avec toute l'Église chrétienne, voulez-vous confesser votre foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Voilà, donc ça, c'est dit et bien dit, c'est la confession de foi obligatoire pour entrer dans l'Église chrétienne. Voilà, c'est vrai que ça rassemble absolument tous les chrétiens. Mais vous avez préparé une confession de foi, c'est-à-dire un peu le cœur de ce qui est important pour vous. Et ça sera notre confession de foi pour ce jour. Et donc, je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur, de la foi, à cette déclaration de croyance chrétienne.
Je crois en l'Éternel, Dieu de vie, d'amour, de liberté, de libération. Je crois que l'Éternel est Dieu de vie, il a ancré en moi l'espérance, la conviction que je suis faite pour la joie, et tous les jours, il m'aide à tourner le dos à ce qui fait mourir. Je crois que l'Éternel est Dieu d'amour, il nous aime le premier, sans condition, et son amour est infini. Je crois que l'Éternel est Dieu de liberté, il nous donne la force d'être qui nous sommes, et de briser tous les conformismes. Je crois que l'Éternel est Dieu de libération, il nous délivre de tout ce qui aliène, il nous relève, nous remet en marche sans cesse et sans jamais se lasser.
Grand merci pour ces paroles qui nous donnent, oui, de la force. Et donc nous chantons, nous répondons avec le grand Dieu, nous te bénissons.
Thank you.
rapport à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Donc nous proposons des engagements à la suite d'une profession de foi. C'est pas que, voilà, donc puisque la profession de foi est déjà faite, vous pourriez dire non, en fait. Mais c'est pas un grand mystère non plus, c'est plutôt pour marquer que la profession de foi, le baptême d'adulte, est le début d'un cheminement qui se poursuit. En effet, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur, et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Abigaël, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétienne, en aimant Dieu de tout votre cœur et en cherchant à aimer votre prochain comme vous-même?
Oui.
La vie de l'Église, en particulier la lecture personnelle de la Bible, la prière dans son intimité, mais aussi le culte, le débat, la communion, sont des éléments, des outils que Dieu vous propose pour persévérer dans la foi que vous venez de confesser. Abigaël, vous avez reçu donc le baptême, signe de l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ, à sa fille bien-aimée. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi, le reconnaissant comme le Père que vous avez dans les cieux. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne, Église chrétienne qui dépasse toutes les frontières, toutes les chapelles visibles, mais nous vous recevons aussi avec grande joie, bien sûr, dans l'église de l'Oratoire du Louvre. C'est pour nous une joie particulière, même si c'est un peu personnel de notre part, de nous réjouir que vous ayez choisi entre toutes notre humble paroisse. Et bien que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons, et vous les renouvelle jour après jour. Alors vous avez accepté de dire quelques mots pour dire un peu votre cheminement. Alors c'est vrai que c'est pas facile, c'est un cadeau que vous nous faites de partager quelques pistes. Merci Abigail.
J'ai longtemps pensé être athée, mais en réalité, dès le lycée, la question de l'existence de Dieu m'animait. J'étais très méfiante et même agressive dans les débats que j'avais avec mon amie Audrey, à qui je pense aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai compris que la question de l'existence de Dieu me passionnait réellement et j'ai décidé d'étudier les religions dans un master de sociologie. Et dans ce master, un jour, on a fait venir un pasteur, Brice. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai entendu pour la première fois une parole qui m'a touchée, qui m'a même bouleversée. J'ai commencé un cheminement malgré moi et avec beaucoup de réticence. Je ne voulais pas changer d'avis et devenir croyante alors que j'avais toujours été hostile à l'idée de l'existence de Dieu, c'était vraiment pour moi insupportable. 1 an plus tard, après de longues discussions avec Brice, avec Claude et avec mes parents, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup évolué. Et un jour, mes parents m'ont dit, lors d'une conversation, des mots que France Quéré avait dit. Ils m'ont dit que France Quéré avait expliqué « Dieu s'attache à moi ». Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai compris que je n'étais pas athée et que je ne l'avais jamais été en réalité. Et puis quelques semaines plus tard, je suis venue par hasard à l'oratoire. Et j'ai entendu une prédication de Laurent Gagnebin qui m'a énormément émue. J'ai compris que j'avais trouvé un endroit où je pourrais chercher, cheminer, et je suis revenue. Je remercie Marc et James pour leur accompagnement précieux. Non seulement ici, on ne me demande pas de laisser ma raison à la porte du temple, mais en plus, on me pousse à m'en servir tout le temps. Ici, parmi vous, je me sens libre.
Grand merci Abigaël donc, pour ces paroles et puis aussi pour ce que vous êtes dans cette église et autour de vous, en dehors de l'église. Nous prions Dieu pour Abigaël en particulier. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour et en particulier pour ton esprit qui habite en chacun de nous, nous donnant force, nous donnant sagesse, nous donnant un peu plus de bonté. Merci pour ta parole qui nous guide vers toi et qui nous guide vers les autres. Ô notre Dieu, nous te remercions pour Abigaël que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est ta joie, ô notre Père. Fortifie notre foi et qu'Abigaël parmi nous puisse grandir dans sa foi et que par elle, nous aussi, nous puissions grandir grâce à son témoignage, grâce à son rayonnement, grâce à ses gestes. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage qui est précieux et que nous garderons. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à cheminer doucement sur la route qui mène vers toi, qui mène vers les autres. Être plus confiant dans ta parole, à être plus au service des autres, non seulement en parole, mais aussi en acte. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force et qu'elle nous rassemble en un corps. Amen.
Voilà ce qui arrive quand on se déclare appelé à la joie. Alors, un texte dans la Bible pour notre méditation ce matin qui ne se passe pas dans la maison d'Abigaël, mais d'Abinadab. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, les 8 premiers versets. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Cette arche devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place. Uzza mourut, là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. Frères et sœurs, laissons là les cymbales, les sistres et autres chorégraphies davidiques et prenons notre petit livre bleu pour y chanter le cantique 204. Nous nous levons et chantons les strophes 1 et 2 de ce cantique qui accompagnera la carrière de cette jeune enfant. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés et de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, celui qui retentit au milieu de ces mots d'hommes et de femmes. Aide-nous à l'entendre sous d'autres lumières, sur d'autres musiques. Aide-nous à faire en sorte que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit, nous soyons prêts à répondre à ton appel et à prendre le départ comme de vrais enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, ce récit est tout à fait anecdotique, mais il expose une situation qui, par les temps qui courent, est loin d'être anecdotique. En effet, ce récit met en scène tout simplement la question du blasphème. Et le blasphème a une fois de plus occupé la scène médiatique et le débat. Le débat s'est rapidement placé au niveau de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne les caricatures récemment publiées. Enfin, je dis les caricatures comme si cela faisait référence forcément des caricatures qui ont été récemment publiées. Et un large consensus s'est finalement dégagé pour dire qu'au nom de la liberté d'expression, il fallait tenir bon sur ce qui a été finalement appelé un droit au blasphème. Ce qui n'est pas sans poser question tout de même. Un droit au blasphème. À titre personnel, je trouve curieux que dans ce débat, seule la liberté d'expression ait été convoquée. La liberté d'expression pour garantir un droit au blasphème et pour maintenir le principe des caricatures qui ne manquent pas en direction des religions. La liberté d'expression. Il n'y a pas de totale liberté d'exprimer des propos racistes. Et c'est heureux, je trouve. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos homophobes. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos antisémites. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos outrageant les personnes chargées du service public. Et on peut donc se demander ce qui justifierait des propos, des images, des gestes, des attitudes blasphématoires. On peut s'interroger sur les raisons aussi qui conduiraient certains à considérer qu'on peut faire toutes sortes de caricatures, tenir toutes sortes de propos visant à dénoncer des extrémismes religieux, visant à dénoncer des dérives, sans prendre le soin de tenir compte des personnes auxquelles cela s'adresse, sans tenir compte de leur cadre culturel, sans tenir compte de leurs références, sans tenir compte de leurs codes. Un point sur lequel Rachid Benzine et le doyen Raphaël Picon reviennent dans le monde des idées de cette semaine. Lorsqu'on communique, et après tout une caricature, une vidéo, c'est fait pour communiquer. Lorsqu'on communique, le moins est de tenir compte de la personne à qui on s'adresse. Sinon, ça risque de tomber dans l'oreille d'un sourd ou d'être mal compris. Ne faut-il pas commencer par se demander quelle est la bonne manière pour se faire comprendre de son interlocuteur ? Essayer de tenir compte de ses schémas de pensée. Cela pour mieux se faire comprendre, mais aussi pour éviter de le blesser. Et puis communiquer avec lui vraiment. Si je ne tenais pas compte du vocabulaire supposé de cette assemblée, je serais tout à fait incompréhensible à utiliser tous les mots techniques de la théologie. Il faut donc bien que je m'adapte, mais ce n'est pas un nivellement par le bas, c'est simplement tenir compte de vos schémas de référence. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est s'agit-il de communiquer vraiment dans ces dernières affaires médiatiques ? Quel est le projet de cette vidéo déclarant dénoncer tel ou tel fanatisme ? Quel est le projet de telle caricature visant à dénoncer tel ou tel intégrisme ? Est-ce que c'est d'aider à pacifier les relations entre personnes ? Est-ce que c'est d'aider ceux qui tiennent des propos estimés intégristes ou fanatiques ? Est-ce que c'est de les aider à changer un peu ? Ou est-ce que c'est tout simplement de rentrer dans une logique d'affrontement dont on espère que l'issue soit l'élimination de l'autre ? Bref, est-ce que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un que l'on estime dangereux, on s'adresse à lui de manière à le rendre moins dangereux ou de manière à l'éliminer ? Bref, le seul motif de la liberté d'expression ne me semble pas forcément être le plus opérationnel dans cette affaire et, comme le dit à nouveau le doyen Picon, il ne serait peut-être pas mal de faire intervenir des théologiens dans des affaires religieuses. Et je crois que ce texte biblique peut nous aider à réfléchir de manière théologique à cette question du blasphème. Et peut-être de manière plus opératoire, de manière plus efficace, que simplement en fonction de ce principe d'une liberté d'expression dont on a vu qu'elle ne s'appliquait pas universellement de la même manière. Et tout d'abord, intéressons-nous à ce qu'est le blasphème. Dans ce récit, vous avez entendu qu'il est question d'un homme qui s'appelle Ouza, fils d'Abinadab. Il est fautif d'avoir tendu la main vers l'Arche d'Alliance et de l'avoir saisie. L'Arche d'Alliance, c'est le coffre dans lequel ont été placées les 10 paroles dont la tradition dit qu'elles ont été reçues par Moïse sur le mont Sinaï. C'est aussi le trône divin dont il est dit que les chérubins constituent le siège de Dieu. Donc une première interprétation de ce texte serait la suivante. En saisissant l'Arche d'Alliance, Ouza met la main sur le divin. Il a le divin à sa pogne, et cela peut être considéré comme un sacrilège. Mettre la main sur le sacré, c'est bien sûr prendre possession du sacré, c'est prendre la place du sacré, c'est se prendre pour Dieu, ce qui est sacrilège. Saisir l'Arche d'Alliance peut donc être compris comme un crime de lèse-majesté qui mérite une sanction immédiate, car c'est le point de fusion entre l'homme et Dieu, entre le fini et l'infini, et cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas possible. Dans cette interprétation, Ouza est capable d'avoir transgressé la séparation entre le sacré et le profane. Et c'est cette interprétation qui est sous-jacente à la révolte de ceux qui condamnent les caricatures sans appel, qui condamnent le principe même de la caricature. Toucher au divin, c'est blasphématoire. C'est condamnable parce que c'est porter la main, c'est porter atteinte à ce qu'il y a de plus absolu. Mais revenons à l'Arche d'Alliance. À la fois récipient du décalogue et siège du divin. Toucher l'Arche, ce n'est donc pas toucher l'Éternel au sens strict du terme. L'Éternel est précisément au-delà de l'Arche. Il est au-delà de cet ustensile religieux. Il est même d'ailleurs au-delà de tous les ustensiles religieux. D'ailleurs, comment pourrait-on imaginer que l'Éternel soit contenu dans une boîte alors que Salomon lui-même, plus tard, dira que le temple de Jérusalem ne saurait contenir l'Éternel ? Combien moins cette boîte qui sera posée dans la plus petite pièce du temple de Jérusalem. Alors quel est le problème ? Quel est le problème avec Ouza qui, quand même, part d'une bonne intention ? Il cherche à éviter que l'arche tombe par terre. Je veux dire, la plupart d'entre nous auraient fait de même. Si un jour vous voyez une coupe de communion sur le point de tomber, vous allez essayer de la ramasser. Si ma Bible est sur le point de tomber, vous allez essayer de faire en sorte qu'elle ne touche pas de terre. Et pourtant, c'est cela qui est condamné, le fait que Ouza évite que l'arche soit traînée dans la boue. Ouza est déclaré fautif d'avoir voulu protéger l'arche. Et dans cette histoire, Ouza blasphème en voulant protéger les objets de la religion. Le blasphémateur, c'est celui qui assimile la religion, ses ustensiles, ses serviteurs, ses institutions, ses paroles, ses enseignements, avec le divin lui-même. Celui qui réduit le divin à ses manifestations religieuses. Le blasphémateur, c'est celui qui réduit l'Éternel à ce que les hommes en disent, à ce que les hommes en pensent, à ce que les hommes construisent matériellement ou spirituellement pour signifier sa présence. Le blasphémateur, dans cette perspective, c'est celui qui affirme que les caricatures de la religion sont un blasphème, alors qu'elles ne concernent pas le divin, mais des sous-produits du divin. Ici, le texte nous dit que le blasphémateur, c'est celui qui affirme que les caricatures sont blasphématoires. Alors que faire des blasphémateurs ? À première vue, c'est simple, peine de mort. Après tout, n'est-ce pas ce qui est promis à Salman Rushdie ? Et pour notre trésorière, je rappelle que c'est quand même 3,3 millions de dollars qui sont promis pour la tête de Salman Rushdie. Je veux dire, ça pourrait nous épargner quelques problèmes. L'équipe de la vidéo « L'innocence des musulmans », même, c'est pas le même tarif, mais c'est le même principe, pour ne prendre que deux exemples. Mais je crois que ce qu'expose le texte biblique est bien autre chose qu'une exécution capitale. Écoutons la plainte de David. Et écoutons-la au plus près du texte hébreu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait ébréché Uzza. Et ce lieu a été appelé Brèche Uzza jusqu'à ce jour. David ne se lamente pas de ce que Uzza aurait été exécuté, mais qu'il a été ébréché, qu'une brèche a été faite en lui. Alors, j'ai lu le texte plusieurs fois et je ne suis pas sans savoir qu'au verset précédent, on a dit que Uzza était mort, là, avec l'Arche d'Alliance. Mais de quelle mort s'agit-il ? Une brèche a donc été ouverte en Uzza. Une brèche dans ses certitudes, dans sa vision étriquée d'un dieu à main d'homme, d'un divin qu'on pourrait brandir soit comme un trophée, soit comme une arme parfois. Une brèche a été faite dans Uzza, nous dit David. Une brèche peut-être dans ses préjugés, dans son système de référence, dans sa propre théologie. Alors c'est vrai, c'est écrit. Uzza est mort. Le Uzza du début du texte est mort. Il est mort à sa vision du monde, il est mort à sa compréhension de l'absolu. Uzza est mort, de manière à pouvoir ressusciter à une autre approche de l'absolu, une approche plus spirituelle. Au fond, il n'est pas impossible que dans cette expérience, Uzza ait constaté qu'il s'était trompé d'ultime, que ce qu'il pensait être l'objet de sa foi n'était en fait pas le sujet de la foi. Que ce qu'il appelait Dieu n'était pas Dieu, mais un sous-produit de Dieu. Oui, effectivement, il a touché l'Arche d'Alliance, mais la terre ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant. Les étoiles ne se sont pas écrasées sur terre, la mer n'a pas recouvert le sol, les oiseaux ont continué à chanter, il y a même certainement eu d'autres naissances encore ici et là. Des enfants ont continué à naître et l'air était encore respirable, en dépit du fait qu'Uzza avait touché l'Arche d'Alliance. En touchant l'Arche d'Alliance, en fait, il n'y a pas eu de fusion entre le fini et l'infini. Lorsque Uzza a touché l'Arche d'Alliance, en fait, il ne s'est rien passé. Pas de bouleversement cosmique. Le monde n'a été ni meilleur ni pire qu'avant. Il ne s'est tout simplement rien passé. L'Arche d'Alliance, tous les instruments de la religion, tous les serviteurs de la religion, ce n'est pas Dieu lui-même. Le mot « Dieu » n'est pas Dieu lui-même. Le nom dont il est rappelé qu'il était prononcé devant cette arche, le nom de l'Éternel, n'est pas l'Éternel lui-même. Je crois que nous avons là un texte qui nous parle de la réforme. Uzza est un réformé. Il a réformé son point de vue théologique. Et dans sa mort, il a entraîné ses conceptions théologiques erronées pour ressusciter à une compréhension nouvelle, pour susciter la possibilité de faire de la théologie, vraiment, de réfléchir à ce qu'est l'ultime, vraiment, en le distinguant de ses substituts qui, eux, ne sont que des caricatures. En soi, la religion est une caricature de l'ultime. Le blasphème, ce serait de confondre Dieu avec ses caricatures. Et je crains que ce ne soit pas à coup de caricatures et de contre-caricatures, que ce ne soit pas à coup de films de dénonciation en tout genre que l'on permette à tout à chacun d'accéder à une compréhension plus authentique du divin. Je pense en revanche que, comme cela s'est passé avec Uzza, le dialogue de nature théologique, penser à ce qui se passe, réfléchir théologiquement à notre quotidien, au fait que même lorsqu'on prédit des catastrophes cosmiques parce qu'il y aurait blasphème, en fait, il ne se passe rien. Je pense que toutes ces expériences de la vie, notre réflexion sur le mal, notre réflexion sur les bienfaits ou les méfaits de telle ou telle attitude, devraient toujours nous aider à repenser la théologie et à relativiser ce qui doit l'être, à faire des brèches dans nos sectarismes. Faire de la théologie non pas simplement en ayant le nez sur l'Arche d'Alliance, non pas simplement sur les textes bibliques, mais en tenant compte aussi de notre vie quotidienne, de nos expériences, de nos rencontres, de ce que nous voyons, de ce qui est là, à portée de main. Et cela, ça serait bien que nous, nous le fassions, nous qui nous sentons parfois un peu préservés de tous ces problèmes de blasphème, d'idolâtrie, de caricatures malheureuses, etc. Peut-être qu'il ne serait pas mauvais de penser à nouveau frais à nos positionnements et à nos convictions. Parce que dans une certaine mesure, je crois que par bien des aspects, il nous arrive d'être blasphémateurs sans bien nous en rendre compte. En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas, et là je mets tous les chrétiens dans le même panier, ne sommes-nous pas trop souvent des païens déguisés en monolâtres, bien campés sur nos certitudes? Je veux dire, est-ce que nous ne nous réfugions pas non seulement derrière les grandes figures du passé, mais aussi derrière de beaux concepts développés par nos traditions, par nos spiritualités, pour nous éviter l'effort de notre pensée personnelle, d'une théologie réactualisée? Qu'est-ce que la théologie française a produit ces 50 dernières années? Pas exceptionnel, hein? Et je suis co-responsable avec les autres. Dans les pays anglo-saxons, il se passe des choses. En Allemagne, il se passe encore des petites choses, mais en France. Mais ça va plus loin que cela. Ce n'est pas simplement le discours théologique qui est à revoir. Ce n'est pas simplement les formulations doctrinales qui sont à repenser. Souvent, on parle des protestants en bien en disant qu'ils sont dans leur temps. On évolue avec la société, on n'est pas arc-bouté sur le passé. Bref, nous sommes en phase avec les questions de notre époque. À première vue, c'est super bien. Mais à la lecture de ce texte, cela revient à dire que tel Ouza, nous sommes à côté de l'arche, bien en phase. Et on voit à quoi cela mène. La bonne place est celle de son frère, à Rio. Enfin, pas à Rio de Janeiro. À Rio, qui est devant l'arche. À Rio précède, il ouvre la voie, il ouvre une brèche lui aussi. Probablement est-il ébréché lui-même pour pouvoir ouvrir cette brèche. Comme le sera plus tard Jean le Baptiste, à Rio est un éclaireur du sens. Il est à l'avant. Il éclaire. Il est probable que Ario aurait fait sienne cette béatitude de Michel Audiard. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Ario n'a pas l'œil rivé sur l'Arche d'Alliance. Ce n'est pas simplement le problème d'avoir le regard fixé sur le passé, en arrière, comme du temps de Sodome et Gomorre. C'est bien le fait que Ario n'a pas l'œil fixé sur l'arche, mais qu'il est tout orienté vers l'horizon qui s'ouvre devant lui, orienté vers l'avenir. On pourrait peut-être se dire qu'il y a là une sorte de figure de l'insouciance qui avance sans se préoccuper des dommages collatéraux. Après tout, Ario ne se préoccupe pas de savoir quelle est la situation de l'arche, si elle risque de tomber ou pas. On peut penser que c'est peut-être une attitude fanatique qui a tendance à laisser derrière soi les blessés de la vie, ceux qui n'arrivent pas à suivre, ce genre de fanatisme qui a pour slogan « marche ou crève », et crève de préférence. Mais Ario n'est pas à la tête du peuple. Il n'est pas comme David. Ario est à la tête de l'arche. Il est devant l'arche, à bonne distance. Une distance critique qui lui évite les réflexes identitaires qui feraient coïncider Dieu avec ses marchepieds. Ario n'a pas la responsabilité du peuple, mais celle d'apporter l'ultime au plus proche de chacun. Et pour cela, il prend ses distances avec ce qui est censé contenir le cœur de sa foi. Il va de l'avant, quitte à laisser tomber l'arche. C'est lui qui était à la manœuvre. C'est donc lui qui a guidé les bœufs. C'est donc lui qui a fait passer les bœufs par un chemin qui a fait chavirer l'arche. Et cela n'a pas offensé le divin pour autant, contrairement à l'attitude de Ouza. Rapporté à notre niveau, je crois que nous ne devrions pas craindre, parfois, souvent, de laisser tomber la Bible. Non pas faire fi de l'Évangile, cet Évangile dont nous avons la révélation à travers ces textes, mais prendre nos distances avec le vocabulaire religieux, avec les concepts religieux, et dire avec le philosophe Henri Atlan que le seul discours sur Dieu qui ne soit pas idolâtre, c'est un discours athée. Et je m'autorise à une sorte de procès d'intention, une réaction de mon confrère Brice. Procès d'intention, c'est que je fais le postulat que s'il y a une rencontre, le jour où il est venu à l'Institut européen des sciences religieuses, qu'il y a une rencontre et que Abigail a été en quelque sorte touchée, c'est peut-être parce qu'il avait laissé un peu tomber les habits du religieux, qu'il avait un peu laissé tomber la Bible dans ses formulations, mais pas dans son cœur, pas dans son message, pas dans sa puissance. Ario prend ses distances avec sa propre culture pour rejoindre la culture de celui vers qui il se rend. Pour lui faire entendre sa part de vérité dans la langue de son interlocuteur, comme à Pentecôte, et ainsi donner soif du véritable absolu. Non pas une sorte d'ersatz qu'on trouve à la surface des textes bibliques, mais le véritable absolu que l'on voit se dessiner derrière et qui pousse toujours, mais de façon sourde. Ario était manifestement ébréché lui-même pour pouvoir créer de nouvelles brèches parmi ceux qu'il allait rencontrer. Un réformé de son époque, et au point où j'en suis, probablement un réformé libéral. Ça, c'est vraiment un procès d'intention. Mais ce n'est pas blasphématoire. Ce qui serait blasphématoire, c'est de considérer que cette attitude d'Ario est à suivre à la lettre et que, automatiquement, mécaniquement, cela fonctionnera. Et que Dieu est dans les mécanismes, que l'Éternel est dans les automatismes religieux, dans le prêt à répondre, dans les formules toutes faites. Ario peut nous aider à penser notre manière d'éviter les chocs de civilisation, que certains jugent pourtant inévitables. Parce que Ario témoigne à sa manière que l'Éternel nous a franchis de nos servitudes religieuses, que nous pouvons donc nous débarrasser de certains oripeaux qui peuvent ou effrayer ou rendre les choses incompréhensibles pour d'autres qui ne sont pas habitués au même textile, qui ne sont pas habitués aux mêmes formulations, qui ne sont pas habitués aux mêmes formes. Et nous savons à quel point notre regard, notre intelligence s'arrête trop souvent sur la forme au lieu d'aller au cœur des choses. Ario témoigne que l'Éternel nous libère et libère notre intelligence, libère notre créativité, libère notre savoir-être, tout notre être, pour précisément cesser de s'intéresser simplement aux questions religieuses, aux questions de forme, aux questions de convenance, et pour s'intéresser à ce qui fait vraiment le cœur de la question théologique, pouvoir penser ce que « être » veut dire. Amen. Et parce que la foi n'est pas un catalogue de choses qu'il faudrait croire, mais une soif de s'abreuver à la source de vie, nous allons chanter le psaume 42 dans notre psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 5 et 6 du psaume 42. Place. Pendant que notre président Philippe Godin va venir prendre le micro pour donner quelques mots à l'occasion de cette rentrée paroissiale, je vous déroule le programme de notre semaine. Donc demain, lundi, cours de grec biblique à 19h30. Les activités ont lieu en face, à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire. Mardi à 14h30 commencent les lectures bibliques consacrées à l'évangile selon Jean. Donc nous allons commencer par le début, ce qui montre que parfois nous sommes quand même assez conventionnels. Donc le prologue, mardi à 14h30. Jeudi, c'est la répétition du chœur à 19h30. Vendredi a lieu la réunion pour la préparation de la vente de l'entraide. C'est à 14h. La vente de l'entraide ayant lieu, elle, le premier week-end de décembre. Samedi, hébreu biblique, à 10h. Et dimanche prochain, culte, avec cette fois baptême d'enfants, et ensuite le repas paroissial. Et pour le repas paroissial, nous vous demandons de signaler votre présence en vous inscrivant auprès de Jean-Claude Hureau ou au secrétariat cette semaine. Et tant qu'à aller voir Jean-Claude Hureau, vous en profitez pour aller au stand librairie et acheter le dernier livre de Patrick Cabanel. C'est un ouvrage patrimonial qu'il faut avoir chez soi. Il faut avoir une Bible, une croix, une note et ce livre-là. 1200 pages pour 39 euros sur l'histoire des protestants du 16e siècle au 21e siècle. Un ouvrage de référence pour soi et pour les autres. Donc vous en achetez plusieurs. Et maintenant, je laisse la parole à notre président.
Merci, James. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le culte de rentrée. Je vous salue tous, je vous dis évidemment la bienvenue. Je salue particulièrement Claude Batty et son épouse, qui sont présents, je pense, pour accompagner Abigaël, Claude Batty étant le président de la Fédération protestante de France. Il y a un peu moins d'un an, pour le culte de la cité, à l'occasion de notre bicentenaire, j'étais un peu sous pression, j'avais la terre entière à citer, j'avais oublié de citer sa présence. Depuis, je vis dans le remords. Merci Claude de me donner l'occasion de réparer ce tort. Donc avant d'évoquer le calendrier et de continuer un petit peu sur le mode des annonces, une brève méditation sur cette question de la rentrée. C'est vrai que ce terme a une sonorité particulière et qui évoque irrésistiblement la rentrée scolaire. Alors, c'est un souvenir d'enfance, je me rappelle, vers la fin du mois d'août, dans les vitrines des grands magasins d'Alès, il y avait des cartables, des gommes et des crayons, puis alors des slogans « Gai, gai la rentrée, vive la rentrée ». Alors, généralement, mon père trouvait cette thématique absolument remarquable, avec peut-être une pointe d'ironie de sa part. Pour ma part, je trouvais que c'était du plus parfait mauvais goût et j'avais le sentiment que ceux qui avaient conçu de telles vitrines faisaient preuve d'un grave manque de sensibilité à l'égard de la jeunesse. Alors quel rapport avec la vie d'une paroisse comme la nôtre? Est-ce à dire qu'il faudrait rentrer au bercail pour ne plus en sortir? Est-ce à dire qu'il faudrait rentrer après s'être égayé dans le vaste monde? Alors, à vrai dire, je crois que le style de notre paroisse, nous le disons souvent, mais je crois que c'est l'occasion de le redire encore, surtout que chaque culte, il y a de nouvelles personnes qui viennent. Donc, le style qui est le nôtre, celui que nous souhaitons, c'est celui plutôt d'un va-et-vient. On ne rentre pas dans un cocon ou dans une nasse, on vient à une fontaine pour boire et puis après pour repartir, comme un cerf désaltéré. Il y a ici des anciens et des nouveaux, des gens qui viennent de temps en temps, d'autres qui s'engagent plus. Quand je suis venu ici, il y a pas mal d'années maintenant, pour ma part, je n'avais pas d'autre objectif que d'écouter la prédication. Et s'il y en a parmi vous qui sont dans cet état d'esprit, je pense que c'est vraiment une excellente idée. Si le culte nous fait du bien, il nous conduira sans même que nous y pensions. Je crois à faire du bien à nos proches, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, et même à nos collègues de travail. Il peut arriver aussi que nous ne soyons pas d'accord avec ce qui a été dit pendant la prédication. Mais après tout, ça c'est la grande tradition protestante, ça fait partie du bien que ça nous fait que de nous réveiller. Et nous essayons de garantir, je crois, que nous y parvenons grâce à nos pasteurs, la qualité de la prédication. Autrement dit, venir simplement au culte, ça n'est pas du tout une démarche égoïste, mais au contraire, généreuse pour les autres. Et puis, si on le souhaite, si quelqu'un vous le propose, on peut s'engager un peu plus dans l'entretien et le soin de cette source qu'on essaye de rendre toujours abondante et claire. Benjamin Constant distinguait la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, qui nous vient de l'Antiquité grecque, c'est cette idée qu'on n'est jamais si libre que lorsque l'on exerce des responsabilités, que lorsque l'on exerce des magistratures. Et la liberté des modernes, c'est cette idée selon laquelle on n'est jamais si libre que lorsque l'on se consacre à la poursuite de son bonheur personnel. Je crois que ces deux libertés sont bonnes et peuvent tout à fait se conjoindre. Je vous rappelle que le conseil presbytéral, étymologiquement, ça veut dire les anciens. Ils incarnent la liberté des anciens. Mais en même temps, ils ont aussi la liberté des modernes. Et donc, il y a cette espèce de va-et-vient entre justement ces deux conceptions de l'engagement ou de la présence. Donc, bienvenue à tout le monde, que vous soyez ancien ou que vous soyez moderne de toutes les sortes. Alors, quelques nouvelles maintenant de notre paroisse. Alors, comme toujours, je ne dirai pas tout, je vais oublier des tas de choses et des tas de gens. Pardonnez-moi. L'association là, qui démarre sous la présidence de Jean-Dominique Pasquet, qui va s'occuper particulièrement de la vie culturelle et de l'orgue, a bien démarré, l'entraide aussi, cela va de soi. La chorale que vous entendez, que vous écoutez. Je vais ne pas trop parler donc de ces différentes activités de la paroisse, mais plus particulièrement bon, de ce qui se passe autour de la pérole, plus strictement. Petit retour vers le passé. Les journées du patrimoine ont été assez extraordinaires, puisque je crois que l'équipe a accueilli plus de 6000 personnes, ce qui est quand même tout à fait considérable. Encore faut-il pouvoir les accueillir, les renseigner. On leur a donné des documents, des prédications imprimées. Certains ont fait visiter, quasiment au péril de leur vie, n'est-ce pas, l'architecture du toit, n'est-ce pas, la charpente. Il y eut des mini-prédications, conférences de nos pasteurs. Il y eut de la musique, magnifique, magnifique réussite et magnifique engagement de l'équipe patrimoine. Notre site internet a pris des dimensions quasiment cosmiques. Vous y trouvez des informations extraordinaires, un blog, des questions, des réponses. Et plus nouvellement, vous pourrez aussi accéder à des cours tout à fait considérable du point de vue du contenu, du point de vue de la clarté pédagogique du théologien André Gounel. Alors, notre calendrier. Le prochain conseil presbytéral aura lieu le 15 octobre. Alors, à cette occasion, c'est une procédure enfin tout à fait habituelle et tout à fait normale. Donc, Marc Pernaud est notre pasteur depuis le printemps 2007. Il est donc dans sa sixième année et donc tout à fait normalement, il sera procédé à une évaluation de son ministère, c'est-à-dire il y aura une discussion avec notamment deux personnes du conseil régional et puis évidemment un vote. Alors je précise que Marc Pernaud souhaite rester parmi nous, ce qui évidemment est plutôt bon signe. Le 22 octobre, il y aura un conseil presbytéral concernant la sécurité. Vous savez qu'un édifice comme celui-ci, c'est assez compliqué. Il y a des tas de normes qui évoluent, etc. Donc, il va falloir mettre ces choses au clair, prendre les meilleures dispositions. Alors, apparemment, ce n'est pas très, très excitant sur le plan théologique, mais après tout, il arrive que les protestants chantent que c'est un rempart, que notre Dieu est donc sécurité et sans doute une bonne chose. Le 25 novembre, nous aurons une assemblée générale extraordinaire qui correspond à une nécessité pour toutes les paroisses des églises réformées et luthériennes, vous le savez, à l'occasion de cette fusion, qui n'est pas tout à fait une fusion, enfin une réunion en tous les cas, de nos destins et qui se concrétise par l'approbation de nouveaux statuts qu'il faudra donc voter, ainsi que le renouvellement de nos conseils presbytéraux. Je précise que le 18 novembre, c'est-à-dire peu avant, à 9h30 au 4 rue de l'Oratoire, nous nous tiendrons à votre disposition si vous avez des questions à poser sur ces nouveaux statuts que vous aurez eu l'occasion de connaître d'ici là, bien évidemment. Je parlais du Conseil presbytéral et du fait qu'il serait en quelque sorte renouvelé et réélu. Et donc pour ma part, je passerai le relais à cette occasion. Cela fait à peu près 9 ans et demi maintenant que je suis conseiller presbytéral. J'ai été une année vice-président, ça fait près de 6 ans que je suis président. Et donc au sens de Benjamin Constant, je vais un peu me moderniser. Mais toutefois, je vais continuer à m'occuper des débats, des conférences. Alors ça fait maintenant, je crois, 8 ans que je m'occupe des mardis. Ça suppose trouver 6 ou 7 conférenciers au moins, si possible, d'un bon niveau. Nous avons vécu de beaux et bons moments, mais nous avons souhaité aussi, je dirais, un peu changer de formule, avoir une formule un peu plus ramassée, peut-être un peu plus punchy. Et donc nous avons trouvé la formule suivante, c'est-à-dire faire des disputatios, vous savez, la dispute étant une vieille discipline, si j'ose dire, médiévale, où il s'agit non pas de se crêper le chignon, mais d'opposer des arguments. Et donc avec le journal Réforme, il y aura des débats contradictoires, n'est-ce pas, à l'écrit, et ces débats contradictoires vont être suivis, en quelque sorte, eh bien, d'un débat à l'oral. Le premier a déjà eu lieu à l'écrit, entre notre pasteur Marc Pernaud et Antoine Nouis, sur la question du mariage des personnes du même sexe. Je précise que lorsque Marc s'exprime, il exprime son point de vue, non pas en tant qu'opinion, mais un point de vue argumenté, théologiquement argumenté. Et en tant qu'il est le pasteur de l'oratoire, il ne représente pas la totalité de l'opinion d'une paroisse. Ça ne fonctionne pas comme cela. Mais il est quand même le pasteur de l'oratoire et on est très heureux qu'il y ait une prise de parole sur ce type de débat qui anime non seulement les églises, mais toute la société. Donc, le 18 octobre à 20h30 au 4 rue de l'Oratoire, venez écouter ce débat sur ce sujet d'actualité. Le prochain débat aura lieu le 17 janvier. Nous n'avons pas encore déterminé avec Réforme quel sera le sujet. On essaye de coller à l'actualité et Jean-Pierre Rive m'aide pour l'oratoire dans cette tâche. Je voulais vous dire aussi que Jean-Luc et Elisabeth Mouton, vous le savez, sont partis travailler en Côte d'Ivoire et donc ont laissé l'appartement qu'ils occupaient aux 4 rue de l'Oratoire. Nous avions le projet de recevoir Marie-Alix et Éric de Putter. Éric de Putter enseignait l'hébreu, l'exégèse de l'Ancien Testament à la faculté de théologie de Yaoundé. Et vous le savez certainement, il a été assassiné en juillet. Il n'y a pas lieu de parler ici de l'enquête qui est menée. Vous pouvez avoir des renseignements. Il y a eu une prise de parole publique du DEFAP. Et vous pouvez aussi trouver cette prise de parole publique sur le site internet de Réforme, je crois. Et donc, nous avons décidé de maintenir notre offre d'accueil à Marie-Alix, et qui réside donc aujourd'hui aux 4 rues de l'Oratoire. Je précise que Éric de Putter a écrit un livre qui s'appelle « La rencontre innocente », dont le sous-titre est « Méthodologie en Ancien Testament » aux éditions Clé. Je ne sais pas si nous disposons de ce livre à la librairie, mais il faudra que nous l'ayons. Alors, je crois que Marie-Alix est là. Je vais peut-être lui demander de faire une exception ou d'offenser sa discrétion. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, voilà. Donc, voyez Marie-Alix, nous sommes très heureux et honorés de sa présence. Voilà, et ben tout continue. Merci.
$3,3 millions. Ah, bah oui, Juliette. Bon, très bien.
Avant que James se transforme en chasseur de primes, je voulais vous parler de la rentrée et des jeunes. Je fais partie de la cellule jeunesse régionale et je rends hommage à Brice aujourd'hui parce qu'il a été un grand acteur de la jeunesse régionale ces dernières années. Et nous avons un culte de rentrée pour les étudiants cet après-midi. Ce sera à l'église Saint-Pierre dans le 19e, l'église luthérienne Saint-Pierre, au 55 rue Manin. Donc s'il y a des étudiants qui sont là ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à les envoyer. C'est de 16h à 18h. Merci.
Voilà, donc pour la prime, c'est le moment de l'offrande et on peut se dire que, après tout, est-ce bien raisonnable. 3,3 millions de dollars, disais-je, pour la tête de Salman Rushdie. On peut se dire que, avec Castellion, que tuer un homme, ce n'est vraiment pas défendre une idée, c'est vraiment tuer un homme. Et que 3,3 millions de dollars, c'est quand même quelques années de fonctionnement de faculté de théologie. Eh bien, ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'argent qui est récolté, aussi bien par les dons anonymes que par les dons nominatifs, ne sont pas utilisés pour blasphémer, mais précisément pour encourager la vie, ce qui fait vivre et faire grandir l'humanité. Donc, n'hésitez pas à donner généreusement lors de cette offrande. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, en cette année qui débute sur le plan paroissial, suscite un esprit créatif chez tous tes serviteurs. Notre sacristain, les pasteurs, les conseillers presbytéraux et ceux qui seront élus à la prochaine Assemblée Générale, les diacres de cette Église, nos organistes et notre chef de chœur, nos secrétaires, les catéchètes, les chefs scouts, les animateurs de groupe, celles et ceux qui œuvrent en faveur d'un accueil chaleureux à l'entrée de ce temple, à la garderie, lors des vers fraternels, lors des repas, celles et ceux qui agissent anonymement et qui accomplissent ta volonté discrètement. Il y a ces ministères particuliers, il y a aussi notre vocation générale, celle d'ouvrir des brèches. Nous sommes toutes et tous au bénéfice d'un appel à ouvrir des voies pour une vie dégagée des discours qui enferment, qui écrasent, qui réduisent l'universel au particulier. Ainsi, notre prière ne saurait se limiter à cette Église particulière. Car si ce matin nous sommes riches d'une communauté d'amis, de frères et de sœurs, nous voulons orienter nos pensées vers ceux qui ne connaissent pas ce même bonheur. Et nous voulons rassembler nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Jésus, celui qui avait été accusé de blasphémer parce qu'il annonçait aux paralytiques que ses péchés étaient pardonnés. Ce Jésus accusé de blasphémer parce qu'il rendait les hommes et les femmes à la vie. Eh bien, nous nous levons pour prendre la position de ces ressuscités et dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le chœur reprend notre prière avec un autre père composé par notre organiste.
Thank you.
Comme chaque dernier dimanche du mois, la sortie se fait de façon préférentielle par la sacristie, ce qui permet de profiter du verre fraternel et ça vous donnera l'occasion de féliciter Abigail. Allons avec l'assurance que nous sommes accompagnés par cet appel à la vie tout au long de notre semaine. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.